141 listes seront au premier tour des élections municipales la semaine prochaine en Calédonie. 18 listes au total ont été déposées pour les 4 communes de moins de 1000 habitants, Belleb, Saraméa, Moindou et Farineau. Le Salon des Femmes fermera ses portes à 17h. L'événement est organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est aujourd'hui dimanche. Forte affluence hier soir au stade Waitanaki de Dumbéa pour assister au deuxième match amical du 15 du Pacifique. Un temps d'échange et de partage autour des valeurs du sport et de l'Ovalie. Donald Trump satisfait après une semaine de guerre au Moyen-Orient. Si je devais me mettre une note sur 10, je me mettrais 15, a déclaré le président des États-Unis. Au huitième jour de la guerre, les frappes américaines se poursuivent sur Téhéran, les frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth. L'Iran continue de son côté de répliquer et vise l'ensemble des pays du Golfe. Le sport, le rugby, le tournoi des Six Nations et douche écossaise pour le 15 de France qui a vu son rêve de grand chelem s'envoler ce matin. Défaite 50-40 face à l'Écosse. Et puis la Formule 1 et George Russell sur Mercedes qui a signé la première pole position de la saison. Le Français Isaac Hadjar a signé le troisième temps des qualifications au volant de sa Red Bull. Bonjour, très bon dimanche, soyez les bienvenus dans ce journal. C'est donc dans une semaine qu'aura lieu le premier tour des élections municipales. Et désormais, on connaît la donne totale en Calédonie pour ce scrutin. En effet, les listes qui se présenteront dimanche prochain dans les 4 communes de Calédonie comptant moins de 1000 habitants sont désormais connues. Il y aura 5 listes à Belleb, ce qui est énorme, hein, puisque pour le dernier scrutin municipal, 2 listes seulement avaient été déposées dans cette commune. On notera que le maire sortant, Jean-Baptiste Moalou ne figure sur aucune de ces listes. 5 listes également déposées pour la commune de Moindou. Le maire sortant, Joseph Perronnet, se représente pour un 4e mandat. Amandine Darras, deuxième secrétaire générale de l'Union calédonienne, est également tête de liste à Moindou. Il y aura 4 listes en course à Farineau, dont une liste tirée par Jean-Christophe Newtou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. 4 listes également à Saraméa, dont une tirée par le maire sortant, Prisca Olero, qui briguera un 2e mandat consécutif, mais un 3e au total, puisqu'elle avait été maire entre 2008 et 2014, avant d'être de nouveau élue lors des dernières élections municipales. C'était en 2020. Ces 18 listes viennent s'ajouter aux 123 listes déjà enregistrées dans les 29 autres communes de Nouvelle-Calédonie, celles qui comptent plus de 1000 habitants. La semaine prochaine, ce sont donc 141 listes au total qui seront en course pour le premier tour des élections municipales. Suite et fin du Salon des Femmes ce dimanche à Nouville, un rendez-vous organisé par Pacific Fair depuis vendredi à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, c'est aujourd'hui, dimanche. Le public a répondu présent et les exposants sont ravis. L'affluence est restée constante depuis à l'ouverture.
Le ressenti est vraiment très bien, bien accueilli sur le salon. Les gens sont présents, viennent nous découvrir, échangent avec nous et ça fait du bien.
80% des stands, c'est des dames. Et les gens se mobilisent, effectivement, à venir nous voir.
Moi, c'est un des premiers salons que je fais de l'année. Ça a l'air de faire plaisir aux gens de se retrouver. C'est plutôt positif. Il y a des beaux travaux qui ont été faits. On est quand même bien installés. Et globalement, il y a eu du monde.
Le Salon des Femmes, qui est le premier grand salon de l'année 2026, se terminera cet après-midi à 17h. C'est à la salle d'exposition de Nouville, anciennement chambre des artisans. Les valeurs du sport et du rugby célébrées à l'occasion du nouveau match du 15 du Pacifique. C'était hier. L'équipe militaire faisait face à la sélection de Nouvelle-Calédonie. Michael Juneski.
Et il y a eu une forte affluence au stade Waitanaki de Dumbéa pour assister à cette rencontre amicale. À l'issue du match, la sélection calédonienne s'est imposé 34-10 face au 15 du Pacifique. Sanua Manua Puava, le manager de la sélection calédonienne de rugby.
Ce qu'on retient plus de ce match, c'est qu'avec ce un mois et demi de préparation avec une reprise, la performance attendue, elle a été présente, elle a été là, les consignes ont été respectées. Là où il fallait aller les chercher, justement, les empêcher d'avancer, on est satisfait parce qu'on a réussi à le faire. Dans un match de rugby, les adversaires, ça sera toujours des adversaires quand deux équipes se tapent dedans. Mais oui, c'est un goût particulier avec le 15 du Pacifique parce que ce sont nos confrères, notamment des joueurs avec qui on a déjà évolué, avec qui on a joué. C'est toujours un plaisir de se confronter à cette belle équipe-là.
Et en effet, pour de nombreux joueurs de la formation de rugby militaire, cette rencontre avait une saveur particulière. L'adjudant Opajo est le capitaine du 15 du Pacifique et ancien joueur de l'Olympique de Nouméa.
Très beau jeu calédonien. C'est fort ce qu'ils ont fait. Nous, on ne peut que s'incliner par rapport à cette belle prestation qu'ils nous ont offerte. C'est sûr, l'émotion est là parce qu'en face, c'est les frères, c'est les tantes, c'est les cousins. Et il y a même les petits neveux ou petits fils qui est en face. Enfin, en face, c'est la famille, du coup. Ça fait du bien de voir l'engouement, la joie, les cris qu'il y a eu, surtout pour les deux équipes. Le public a encouragé les deux équipes, et ça, c'était top. Au stade de Dumbéa, c'était énorme.
Il s'agissait avant tout d'une belle soirée autour de la convivialité et du partage des valeurs du sport. Le public est donc venu nombreux. Le général Soubrier, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Ce que je retiens, c'est deux équipes très engagées. On voyait que chaque équipe voulait gagner, donc c'était important. Beaucoup d'engagement sur le terrain avec des échanges qui étaient beaux. Et donc nous avons passé vraiment un très beau moment. Deux équipes qui étaient à peu près, je pense, du même niveau. J'avoue, les Cagous ont quand même un très bon niveau. Le 15 du Pacifique n'a pas démérité. Je remercie d'ailleurs les spectateurs qui étaient là. On était très nombreux autour du stade. Merci aussi pour l'organisation. C'était vraiment un très bon moment, une très belle soirée.
Le 15 du Pacifique qui était en tournée en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des festivités de commémoration des 80 ans du retour du bataillon du Pacifique. L'équipe militaire avait battu le week-end dernier le RC Mondor, champion de Calédonie en titre, sur le score de 38 à 14.
Du sport encore, mais sous une autre forme avec la grande finale du championnat de barbecue de Nouvelle-Calédonie qui anime depuis 10 heures l'îlot Amédée. Après des mois de sélection, d'épreuves et de qualifications, les 6 meilleures équipes du territoire sélectionnées à la foire de Bouraille, à la foire de Koumak, mais aussi au barbecue and grill s'affrontent en ce moment même. Thierry Milot, des responsables de l'événement.
Le soleil est au rendez-vous, il a entendu parler du concours de barbecue, donc il est venu nous rejoindre. On a une belle journée, il y a du monde sur l'îlot Amédée. Donc un grand remerciement au Maridé là, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Il nous a fait une place d'exception sur l'îlot. Alors dès le top départ, en fait, les équipes auront 5 épreuves à cuire. Donc du poisson, de l'agneau, du porc, du bœuf. Et la dernière épreuve, ça sera un burger. Chacun est venu avec sa planche, ses couteaux, ses ingrédients. Nous, l'organisation, on leur a fourni toutes les viandes, tous les légumes. Donc tout ça, effectivement, en approvisionnement local. Et c'est à eux de sublimer, en fait, tous les aliments qu'on leur a fournis. La dernière équipe devrait finir de proposer sa prestation à 14h30. Et à partir de là, le jury se retire pour délibération. Et ensuite, on va pouvoir donner donc les différents noms des gagnants. Donc, il y aura un gagnant par épreuve, c'est-à-dire qu'il y aura un gagnant au niveau du poisson, au niveau du porc, au niveau du bœuf, au niveau de l'agneau et au niveau du burger. Et ensuite, il y aura un super champion, donc par addition de points. Et ce super champion-là, c'est l'équipe qui partira au mois de mai pour le Meatstock à Sydney.
Des propos recueillis par Kelinda Boicou. Et puis c'était l'effervescence ce matin pour le deuxième grand vide-grenier de la vigne de Nouméa, place des Cocotiers. Les amateurs ont pu profiter de plus de 250 stands qui étaient installés du kiosque à musique jusqu'en bas de la place de la Paix.
Pour les enfants surtout, pour les filles, pour la rentrée, des chaussures, des petits linges, tout ça. Puis des petits trucs qui nous fait plaisir, voilà, des petits coups de cœur on prend quand c'est pas cher.
Des shorts avec un cahier et des livres.
Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de se balader, de trouver des bonnes affaires. Et voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup le dimanche. Je me réveille généralement assez tôt pour venir profiter. J'ai trouvé pas mal de choses, alors un peu moins pour moi, mais beaucoup pour ma fille.
Par exemple.
Donc je suis contente, je vais chercher des shorts. Donc j'ai trouvé pas mal de shorts, de leggings, sport, des bonnes marques en plus, pour vraiment pas cher.
T'as trouvé quoi par exemple ?
Une flamant rose, c'est une peluche.
Franchement il est bien, il y a un peu moins de monde que d'habitude.
Et vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît ?
Oui, pas mal de choses, dans ma collection Star Wars, c'est un drone.
Et vous avez trouvé d'autres choses qui vous plaisent ?
Ma femme, des habits.
Ça fait plaisir d'être déjà sous le soleil, on rencontre du monde, on voit des amis qui exposent, des amis qui chinent comme nous, et c'est cool. Je suis persuadé qu'on va trouver quelque chose de sympa pour mon fils qui est là, qui a profité de l'occasion pour vider sa tirelire, et il s'est dit tiens, je vais aller. Il m'a même dit je vais faire un cadeau pour papa.
Un vide-grenier qui a refermé ses portes il y a quelques minutes à midi. Le prochain est prévu le 5 avril. Il est midi et pratiquement 10 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans le monde.
Femmes de talent. Du 6 au 8 mars, rendez-vous à la salle des expositions de Nouville pour la 19e édition du Salon des Femmes. Plus de 70 exposants, des animations gratuites tous les week-ends et des temps forts dédiés aux droits des femmes en Nouvelle-Calédonie avec les associations locales et la province sud. Salon des Femmes, du 6 au 8 mars à Nouville, programme complet sur Facebook Pacific Fair NC.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
À 8 jours de guerre, 3400 frappes qui ont visé l'Iran depuis une semaine et un président des États-Unis qui se félicite. Donald Trump a pris la parole il y a quelques heures depuis la Floride pour dresser un premier bilan, si l'on peut dire ainsi, de l'offensive israélo-américaine en Iran. Donald Trump plus que satisfait.
Ça a été incroyable, avec 42 navires touchés, certains de très gros navires. Nous avons également abattu des avions et anéanti leurs moyens de communication. Je ne sais même pas comment ils communiquent en ce moment. Ce sont des gens malfaisants, des gens cruels. On l'a vu depuis 47 ans et il fallait bien faire quelque chose. Ils étaient proches de se doter de l'arme nucléaire. Ils l'auraient obtenue si on n'avait rien fait. Nous avons rendu un grand service au monde. Sur une échelle de 0 à 10, on est à 15 en termes de succès. On s'en sort vraiment bien.
Donald Trump soutient indéfectible d'Israël dans sa guerre contre le régime des Mollahs. Mais aussi la guerre au Liban, où l'armée israélienne frappe le Hezbollah, l'allié de l'Iran. Israël qui affiche la même confiance face aux objectifs qu'il s'est donné. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, s'est également exprimé tôt ce matin pour nous.
Vous me dites à moi, au gouvernement, aux soldats et à nos commandants héroïques de continuer jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Grâce à nos courageux pilotes et aux États-Unis, nous avons pratiquement obtenu le contrôle total du ciel de Téhéran. Nous ferons, en tout état de cause, tout ce qui est nécessaire pour protéger nos communautés et nos citoyens. Quant aux prochaines étapes en Iran, nous avons un plan méthodique avec de nombreuses surprises pour déstabiliser le régime et permettre le changement.
Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, c'était lors d'une allocution télévisée ce matin en Israël, sur le front à proprement parler. Une semaine après le début de la guerre en Iran, l'intensité des frappes menées conjointement par les aviations américaines et israéliennes n'a pas faibli ces dernières heures. Une offensive américano-israélienne qui a affaibli évidemment les capacités du régime iranien, mais l'État hébreu est toujours confronté aux salves de missiles tirées depuis l'Iran. Frédéric Simon pour Europe.
La sirène prévenant les Israéliens de l'approche des missiles tirés depuis l'Iran a retenti à 11 reprises depuis la nuit dernière, des salves toujours aussi fréquentes donc, mais moins fournies, ce qui confirme l'estimation de l'armée israélienne portant sur la diminution du nombre de missiles tirés chaque jour par le régime iranien vers le territoire de l'État hébreu. Pour réduire encore davantage les capacités balistiques de Téhéran, les aviations israéliennes et américaines continuent de pilonner les rampes de lancement, les entrepôts et les usines de fabrication de missiles. D'autres objectifs sont dans le viseur des avions de chasse israéliens et américains. Les stocks de pétrole, pour la première fois aujourd'hui, l'académie militaire des gardiens de la Révolution et l'aéroport international de Mehrabad dans les environs de Téhéran. Il est considéré par Israël comme la plaque tournante de l'aide aux groupes terroristes pro-iraniens à travers la région. Et parmi ces groupes, le Hezbollah libanais, l'armée israélienne effectue de nombreux raids visant ses dirigeants et ses infrastructures, notamment dans le bastion de la milice situé au sud de Beyrouth, la capitale. Et dans la perspective d'une éventuelle opération terrestre de grande ampleur, Tsahal a demandé une seconde fois à la totalité des habitants du sud du Liban d'évacuer la région.
Frédéric Simon, le correspondant permanent d'Europe 1 à Tel Aviv, en Israël. La guerre en Iran et son retentissement en métropole. Plus d'un millier de personnes a défilé à Paris en soutien à Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran. Après 8 jours de guerre marqués par des bombardements quotidiens sur l'ensemble du Moyen-Orient, le soulagement des Iraniens continue à surpasser la crainte. Romy Azoulay pour Europe 1.
Des dizaines de drapeaux iraniens, côte à côte avec ceux des États-Unis et d'Israël. Sur ses épaules, Mani a noué le drapeau de l'ancienne monarchie. Aujourd'hui, il voit enfin la lumière au bout du tunnel.
C'est la dernière bataille, comme on le dit en persan, lors des manifestations. Il faut mener le combat jusqu'au bout et la victoire n'a jamais été aussi proche.
Merci Président Trump, peut-on lire sur des pancartes. Les frappes israélo-américaines, tout le cortège les salue comme Nina. Les larmes aux yeux, elle n'attend plus que la chute des Mollahs.
C'est une opération de sauvetage des Iraniens.
bien. Je suis contente et j'attends la fin. Il y a un espoir, une lueur d'espoir. Il faut qu'ils nous écoutent et qu'ils laissent les Iraniens récupérer leur pays.
Il y jette un œil à son portable, 10 jours sans nouvelles de ses grands-parents en Iran. Mais la joie de voir le régime s'effondrer est plus forte.
Nous sommes tous unis parce qu'on croit et on a la foi en nous, en liberté, en démocratie. Et avoir un avenir bel pour non seulement les Iraniens, mais pour le monde entier. C'est le beau jour qui arrive.
Tous ces exilés espèrent que ce rassemblement sera l'un des derniers avant de pouvoir retourner sur leur terre natale.
Un reportage à Paris signé Romy Azoulay d'Europe 1. La guerre en Iran et ses conséquences économiques en métropole. Les grandes entreprises craignent évidemment pour leur carnet de commandes. Elles craignent aussi une augmentation du coût des matières premières, notamment le pétrole et le gaz. Des incertitudes qui s'ajoutent à une conjoncture nationale bien peu encourageante et à une consommation qui est au point mort. Bref, un contexte bien morose et pourtant les dirigeants d'entreprises tentent de garder la tête froide, à l'image de Charles Natti, porte-parole du MEDEF.
Il y a des préoccupations, mais enfin, la situation n'est pas grave au point qu'il faille paniquer. Hein. Les marchés restent quand même relativement stables. Il y a des comportements d'investissement, d'achat qui ne connaissent pas de rupture dans les chaînes d'approvisionnement, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. En revanche, ce qui est certain, c'est que les chefs d'entreprise, ils ont besoin de visibilité. Ils ont d'autres défis à affronter. Il faut rester vigilant, essayer de s'adapter. Quand on est chef d'entreprise, s'adapter, c'est un peu votre deuxième prénom. Hein. Il faut maintenir évidemment tout ce qui est lié aux investissements et au fonctionnement normal de l'activité.
Charles Natti, l'un des porte-parole du MEDEF, joint au téléphone par nos confrères d'Europe 1. Il est midi et 17 minutes, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, nous allons parler sport.
Élection municipale à Nouméa, information pratique. Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Oliveau aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courteau Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobarède à la vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Radio Rythme Bleu, première partout, un point c'est tout.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et on va parler sport avec le rugby et les cartes qui sont totalement rebattues dans le tournoi des 6 nations.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi des 6 nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et l'avant-dernière journée de compétition aura vu le 15 de France perdre son premier match dans l'édition 2026. Une défaite en Écosse, Michael Juneski.
Mais que s'est-il passé sur le terrain des Écossais? Alors que les Bleus étaient encore sur la voie du Grand Chelem, les tricolores ont subi un revers à 50 à 40. Trop d'inconstance alors que les Bleus étaient bien rentrés dans la partie en menant au score 14 à 7 après 20 minutes de jeu. Ils ont ensuite pris l'eau et c'est le travail des finisseurs qui a permis de réduire l'écart avant le coup de sifflet final et d'empocher surtout un très important bonus offensif. Mais 7 essais encaissés contre 6 inscrits. L'arrière du 15 de France, Thomas Ramos, ne comprend pas le trou noir des Bleus en plein milieu du match.
Trop laissé le ballon à cette équipe, trop subi, voilà, c'est dommage. Il y a 15-20 bonnes minutes peut-être à la fin, je ne sais pas exactement, mais où on s'est peut-être un peu plus retrouvé dans notre rugby. Mais voilà, sur la première mi-temps, on a 2 actions, on marque 2 essais, derrière on fait plus rien. On met 14 points et puis derrière plus rien. Donc comme quoi, c'est bien, ça nous montre que rien n'est acquis. À nous d'apprendre cela encore, quoi.
Il faudra relever la tête et oublier cette défaite pour aller chercher la victoire finale contre les Anglais dans une semaine au Stade de France. L'Angleterre qui risque aussi de se montrer dangereuse après avoir subi aujourd'hui la toute première défaite de son histoire contre le 15 italien, 23 à 18. Désormais, les Français sont rejoints en tête du classement par l'Écosse à égalité de points, mais avec l'avantage au goal average largement en faveur des Bleus. L'Irlande est 3e, l'Italie 4e, l'Angleterre en avant-dernière position suivie du Pays de Galles. Les Écossais qui iront retrouver la semaine prochaine les Irlandais alors que les Italiens affronteront les Gallois.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Allez, le sport coste aussi du football avec tout d'abord cette large victoire de l'équipe de France dames contre la Pologne pour son deuxième match de qualification au prochain mondial. Les Françaises l'ont emporté 4-1 avec notamment un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Elles restent en tête de leur groupe. Et puis sur les pelouses de Ligue 1, chez les messieurs, Marseille décroche une victoire sur la plus petite des marques face à Toulouse.
L'OM qui a fait le job en l'emportant 1-0 pour le compte de la 25e journée du championnat de France avec une réalisation de Greenwood. Un résultat qui permet aux Marseillais de repasser provisoirement devant l'Olympique Lyonnais sur la 3e marche du podium de la Ligue 1. De son côté, Nantes sombre encore. Les Canaries sont avant-derniers du classement après avoir été battus à domicile par Angers 1-0. Enfin, Auxerre et Strasbourg se sont quittés sur un nul 0-0. Demain, Lens, le deuxième du championnat de France, accueillera la Lanterne Rouge, Metz. Les Lensois peuvent réduire l'écart avec le leader, le PSG, battu hier par Monaco 3-1. À suivre encore les rencontres, Brest-Le Havre, Nice-Rennes, Lille-Lorient et enfin, à 6h45, le duel entre Lyon et le Paris FC d'Antoine Comboiré.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec cet après-midi à partir de 15h, le premier Grand Prix de la saison 2026. Ça se passe sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne. Hier s'est déroulée la toute première séance de qualification et c'est George Russell, le Britannique, au volant de sa Mercedes qui a signé la pole position. Il a dominé en fait la séance de bout en bout en devançant son jeune coéquipier Kimi Antonelli et le Français Isaac Hadjar, impressionnant pour ses débuts chez Red Bull. Isaac Hadjar, troisième temps de la séance de qualif. Charles Leclerc sur Ferrari et Oscar Piastri sur McLaren complètent le top 5. Quant au champion du monde en titre, Lando Norris, il a signé le 6e temps et s'élancera cet après-midi donc depuis la 3e ligne. Du côté des autres pilotes français, Esteban Ocon sur Haas et Pierre Gasly sur Alpine ont décroché respectivement les 13e et 14e places sur la grille. Déception pour Pierre Gasly.
Il y a beaucoup de travail devant nous, à tous les niveaux, très clairement. Il va falloir qu'on comprenne plus sur l'énergie, il va falloir qu'on comprenne plus sur les pneus, il va falloir qu'on comprenne plus sur la voiture. Manque juste de performance, j'ai fait des très bons tours. J'arrive à exploiter tout le grip qu'on a, mais malheureusement, pour l'instant, il nous en manque beaucoup. Il va falloir travailler dur sur les prochaines semaines. Après, comme on le savait, c'est le point de départ. Maintenant, il va falloir développer la voiture. Je pense que c'est juste qu'on part un peu plus loin que ce que l'on aurait espéré. On a vu pendant les tests que généralement c'était un petit peu mieux pendant avec de l'essence dans la voiture. Donc voilà, c'est la première course de l'année. Il faut pas. C'est sûr que pour l'instant il y a de la déception parce que je m'attendais à mieux que ça.
Et Pierre Gasly qui a donc signé le 14e temps de cette séance de qualification hier. Quant à Max Verstappen, le quadruple champion du monde, il a vécu une séance qualif cauchemardesque. Il n'a même pas réussi, figurez-vous, à boucler un tour chronométré. Dès son premier tour lancé, le Néerlandais a perdu le contrôle de sa Red Bull au freinage au premier virage. Conséquence, eh bien, il a terminé dans un mur. Verstappen s'élancera donc depuis les stands cet après-midi. Le premier départ du premier Grand Prix de la saison 2 Formule 1 2026 sera donné tout à l'heure à 15h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, le sport côté calédonien à présent. Avec tout d'abord ces bonnes nouvelles pour nos représentants hors du territoire, à commencer par un titre de champion de France de bras de fer, Mickaël.
Un maître au crédit de David Mototoa, qui a été donc sacré dans la discipline dans la catégorie bras gauche. Il avait déjà été par le passé titré champion de France de force athlétique. Il tentera de doubler la mise demain en catégorie bras droit. Les ferristes calédoniens habitués des podiums nationaux n'avaient plus fait le déplacement en métropole ces dernières années en raison des crises successives. Et puis, toujours hors du territoire, en VTT. Ethan Dacremont a terminé 3e de la Pacific Cup en Australie à tout juste 17 ans. David Esposito, autre Calédonien engagé, a terminé 5e.
Et sur le territoire des résultats également, on va commencer avec du cyclisme.
Oui, sur le prix de la ville de Dimbéa hier, la victoire est revenue à Florian Barquette et Sandra Gerald chez les féminines. Ils avaient tous deux remporté le premier rendez-vous de la saison sur route le week-end dernier sur le Critérium de Païta. Du football, football avec la reprise de la Super League. Et premier résultat hier, la victoire au stade Nouma Dele d'Horizon Pato sur le Mont d'Or. Score sans appel de 4 à 0. L'AS Gaïcha qui a battu le CA Saint-Louis 3 buts à 1. Toujours à Nouma Dele. Aujourd'hui, l'AS Lossier retrouvera le SC Negeo. Et puis en golf, c'est la deuxième édition de la Ryder Cup calédonienne qui se joue à Bourail. 18 joueuses et joueurs qui se retrouvent. Un affrontement sudiste broussard, c'est-à-dire les clubs de Dimbé Aitina contre Lawangui et Deva. Ça continue ce dimanche lors de la première édition. C'est l'équipe des Broussards qui s'était imposée.
Et on va terminer, Mickaël, avec ce très beau succès pour la toute première édition de la Tactical Race en Calédonie.
Le principe, on le rappelle, consiste à prendre part à une course avec alternance d'endurance sur deux tours de stade, puis exercice de type fitness à réaliser autant de fois que possible pour les participants. Plus de 250 participants justement pour cette première. C'est déjà une réussite selon Caroline Favier de Fit Energy.
Bah, on est super content parce qu'effectivement il y a tous les sports qui se mélangent et on peut avoir effectivement des crossfitters, mais on a des gens qui font effectivement de tout ce qui est hybride dans les salles, mais on a aussi des basketteurs, des rameurs, des forces de l'ordre, des pompiers, donc ça on est quand même super ravis que ça ait touché tout ce public là et on a plein de curieux aussi qui viennent voir et on est super content pour cette première édition. En fait c'est assez incroyable parce que j'ai plein de personnes qui font plus forcément de sport, qui sont blessées ou autres depuis des années et ça sincèrement. Et ils me disent, même si je mets 3 heures, j'ai envie de la faire. Elle donne envie de la faire, cette course, parce qu'on sort, on va sur le terrain, on fait 2 tours. Les 2 tours, on visualise, donc ça fait pas peur comme si on partait. On revient, on vient jouer dans la salle Omnisport. On va tirer, pousser, des choses au final simples qu'on fait tous les jours. Mais on le fait en mode course. Et vraiment, mais vraiment, tous les gens ont envie d'essayer. En fait, il y a les deux, il y a ceux qui disent, mais c'est des grands malades. Et quand même, les 3/4 ont envie d'essayer de se tester, parce que les gens aujourd'hui, ils ont envie de se prouver des choses, de se challenger. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce week-end. En tout cas,
80 bénévoles sont mobilisés pour l'événement dont les grands gagnants seront dévoilés à l'issue des classements définitifs ce soir. Pour le moment, en duo, c'est la team TDR avec Gabriel Espada et Samuel Conan qui est en tête pour 8 boucles effectuées en 1h09. En solo, c'est Tom Bitterman qui est provisoirement en tête avec un temps global d'1h09, juste devant la première féminine. Deuxième au classement scratch, Angélique Plaire qui effectuait déjà la course en duo hier. Elle a réalisé ce matin un temps d'1h17 et 29 secondes.
Merci Mickaël. Il est midi et 27 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, il sera disponible, je vous le rappelle, en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Je sors de ce studio en marchant et non pas en courant, mais nous poussons l'information jusqu'à 13h. À tout à l'heure.